Vortex et Rotative.
L'émission où l'on vous parle de nos livres de science-fiction préférés.
Sur Radio Dragon et Campus Grenoble.
Bonjour.
Bonjour. Vous êtes sur Radio Dragon 104.4 et 96.8 et Campus Grenoble 90.8 pour le dernier épisode de Vortex et Rotative avant une petite pause de l'été.
Aujourd'hui, nous allons vous présenter le roman « Liens de sang » de la remarquable autrice afro-américaine Octavia E. Butler, paru originellement en 1979 sous le titre « Kindred » et en 2000 chez Draper dans la traduction française de Nadine Gassier, traduction réactualisée par Jessica Shapiro pour la très récente réédition par les éditions Diable Vauvert. Octavia Estelle Butler est née en 1947 en Californie, dans une Amérique en pleine ségrégation raciale. Elle grandit dans une famille pauvre de baptistes très stricts.
Je suis femme, je suis noire, et je suis la fille d'un cireur de chaussures mort jeune et d'une serveuse qui n'avait pas reçu d'éducation, mais connaissait le chemin de la bibliothèque. Je suis écrivaine, au moins en partie parce que j'ai pu fréquenter les bibliothèques municipales.
Très tôt, elle est attirée par la lecture de mondes imaginaires et se met à écrire elle-même dès l'âge de 10 ans, pendant que l'Amérique est secouée par le mouvement pour les droits civiques. Plus tard, elle participe à un atelier d'écriture de science-fiction et fait ensuite des études d'écriture à Los Angeles, où elle suit notamment des cours de Samuel R. Delaney, seul autre auteur afro-américain de science-fiction connu de l'époque. Butler vend sa première nouvelle à un magazine en 1971, mais il lui faudra des années avant de réussir à publier son premier roman, The Pattern Master, le maître du réseau en français, et des décennies avant de pouvoir vivre de son écriture. Durant tout ce temps, elle enchaîne des boulots mal payés et écrit surtout la nuit. Dans les années 1990, ça commence à aller mieux, et parmi d'autres récompenses, elle reçoit en 1995 la MacArthur Foundation Genius Grant, une bourse dotée de $500,000 pour permettre à la lauréate de se consacrer entièrement à l'écriture. En 2006, Octavia Butler meurt subitement d'une attaque cérébrale, âgée seulement de 58 ans. Elle compte aujourd'hui parmi les autrices de science-fiction les plus renommées aux États-Unis. Son œuvre est enseignée dans les lycées et universités et la NASA lui a rendu hommage ce printemps en nommant d'après elle un site d'atterrissage d'une mission martienne qui était partie de sa ville natale. Son œuvre, qui a tendance à être assez dystopique et qui traite avant tout des relations complexes entre humains pris dans des rapports de pouvoir de race, classe et de sexe, compte 12 romans et 2 recueils de nouvelles. Seulement une partie de ses romans sont traduits en français, dont quelques tomes de la série Patternist et les 2 tomes de la série Parabole. Ces dernières années, les éditions Diable Vauvert se sont lancées dans la réédition de plusieurs titres épuisés en français, dont Liens de sang, qu'on va vous présenter ici.
Dans Liens de sang, Octavia Butler raconte l'histoire de Dana, une jeune autrice noire états-unienne qui vit en Californie en 1976. À ses 26 ans, juste après son mariage avec Kevin, un homme blanc, elle est brutalement envoyée dans le passé, au début du 19e siècle, dans le Maryland, en pleine période d'esclavage. Ce premier voyage forcé ne dure qu'une dizaine de minutes, le temps de sauver un jeune garçon blanc de la noyade. Dans le présent, son mari, Kevin, ne la voit disparaître qu'une poignée de secondes. Peu de temps après, elle est de nouveau projetée dans le passé où elle retrouve le même enfant, un peu plus grand, apeuré dans un incendie. Elle comprend alors que cet enfant la convoque quand il est en danger. Et cet enfant blanc, Rufus, n'est autre que son ancêtre, le fils d'un propriétaire d'esclaves. Elle est projetée à ses côtés sans savoir comment revenir dans le présent. Un présent où, même si elle subit beaucoup de racisme, elle est libre. Et un passé où elle ne peut avoir d'autre statut que celui d'esclave. Un présent qui sera rempli de l'angoisse d'être envoyé dans le passé en y embarquant peut-être d'autres gens. Un passé caractérisé par l'extrême violence de l'esclavage.
J'ai perdu un bras en rentrant de mon dernier voyage, le bras gauche. J'ai aussi perdu près d'un an de ma vie, ainsi qu'une bonne part du confort et de la sécurité dont je n'avais pas mesuré l'importance avant d'en être privé. Quand la police l'a relâché, Kevin est venu à l'hôpital et il ne m'a plus quitté pour que je sache que lui, je ne l'avais pas perdu. Mais afin qu'il puisse me voir, j'avais dû convaincre la police qu'il n'avait rien à faire en prison, ce qui avait pris un certain temps. Les officiers de police étaient des ombres qui surgissaient par intermittence à mon chevet pour me poser des questions que j'avais le plus grand mal à comprendre. « Comment vous êtes-vous blessé au bras ?» voulait-il savoir. « Qui vous a blessé ?» Ce verbe m'exaspérait. « Blessé ?» Comme s'il s'agissait d'une égratignure. S'imaginait-il que j'ignorais avoir été amputé ? « C'était un accident, » me suis-je alors entendu chuchoter. « Un accident ?» Ils ont commencé à me questionner au sujet de Kevin. Au début, leurs paroles ne formaient qu'un magma indistinct que je n'écoutais qu'à moitié. Bientôt pourtant, en me répétant leurs propos, j'ai soudain compris qu'ils accusaient Kevin de m'avoir blessé. « Non, » j'ai secoué faiblement la tête sur l'oreiller. « Ce n'est pas Kevin. Il est là, je peux le voir. »« Qui alors ?» ont-ils insisté. J'ai essayé de réfléchir, malgré les analgésiques, malgré la douleur diffuse, mais je n'ai pas trouvé d'explication cohérente à leur donner, aucune qu'ils accepteraient de croire. « C'était un accident, » ai-je répété. « C'est ma faute, pas celle de Kevin. S'il vous plaît, laissez-moi le voir. » J'ai répété ces mots inlassablement, jusqu'à ce que les vagues silhouettes des policiers me laissent tranquille et qu'à mon réveil, je retrouve Kevin qui somnolait dans un fauteuil près de mon lit. Un court instant, je me suis demandé depuis combien de temps il était là, mais ça n'avait pas d'importance. La seule chose qui comptait, c'était qu'il soit là. Je me suis rendormi, soulagé. J'ai fini par me réveiller avec la certitude que je pourrais lui parler de façon cohérente et comprendre ce qu'il dirait. Je me sentais presque bien, si ce n'était cette étrange palpitation dans le bras. Ou plutôt là où se trouvait autrefois mon bras. J'ai tendu le cou pour tenter d'apercevoir l'emplacement vide, le moignon.
Dans le roman « Lien de sang », les émotions et les sensations sont décrites avec énormément de précision et de puissance. L'histoire est très violente et l'écriture le rend très bien, ce qui peut d'ailleurs rendre la lecture difficile. Quand Dana est emportée dans le passé, elle est confrontée à des situations de violence intense qu'elle subit directement ou auxquelles elle assiste. Elle est confrontée au quotidien et, heure après heure, à la cruauté de l'esclavage et à la réalité des personnes noires à cette époque. La narratrice, elle-même, décrit le décalage entre sa vie en 1976 et son expérience au XIXe siècle.
J'avais le sentiment d'être en train de perdre ma place, ici, dans ma propre époque. L'époque de Rufus était une réalité plus puissante, plus vivace. Le travail était plus rude, les odeurs et les saveurs plus fortes, le danger plus extrême, la souffrance plus insoutenable. L'époque de Rufus exigeait de moi des ressources jusque-là insoupçonnées. Ne pas m'y montrer à la hauteur pouvait m'y coûter la vie. Il s'agissait d'une réalité à l'état brut, que ni les commodités, ni les luxes faciles de notre maison, de notre temps, ne pouvaient faire pâlir.
Octavia Butler décrit comment les Blancs et les esclavagistes ont développé des stratégies de manipulation et ont instauré un régime de terreur pour soumettre les personnes noires à l'esclavage. Elle parle de manière crue et directe des châtiments corporels, de la manière de les mettre en scène devant les autres personnes mises en esclavage comme moyen d'humiliation et pour faire exemple. Elle décrit avec précision les violences et les meurtres, le travail forcé, la vente à d'autres propriétaires pour diviser les familles et briser les alliances, etc.
Je fermais les yeux, contractant mes muscles, réprimant mon envie de vomir. J'avais vu des gens se faire tabasser à la télévision et au cinéma. J'avais vu le sang artificiel rouge vif strier leur dos, entendu leurs hurlements parfaitement travaillés. Mais je n'étais pas couché à deux pas, je n'avais pas senti leur sueur, je ne les avais pas écoutés prier, supplier, ni vu se faire humilier devant leur famille. J'étais probablement moins bien préparé à cette réalité que l'enfant qui pleurait non loin de moi. À vrai dire, ses réactions et les miennes se ressemblaient. Mon visage aussi était mouillé de larmes, et des pensées désordonnées se succédaient dans ma tête dans l'espoir de conjurer la scène.
Dans tout le récit, Octavia Butler instaure une sensation de danger imminent, à la fois avec les risques liés aux violences esclavagistes et, dans les chapitres qui se passent dans le présent, le risque permanent d'être renvoyé dans le passé. À travers le récit de Dana, l'esclavage apparaît comme quelque chose qui est arrivé par le passé et qui peut recommencer à tout moment. L'arbitraire du voyage dans le temps fabrique une sorte de parallèle avec l'arbitraire de l'esclavage et crée un sentiment de peur permanent, mais aussi un sentiment d'impuissance. Cet arbitraire du voyage dans le temps que subit Dana fait aussi penser à l'arbitraire des enlèvements en Afrique et des voyages forcés vers les États-Unis et vers la condition d'esclave. Dana, à travers ses voyages, est elle aussi mise en esclavage et perd sa liberté. La violence et l'arbitraire de ses voyages apparaît comme une sorte de métaphore du passage d'un statut libre à un statut d'esclave.
Je ne suis pas sûre qu'il soit possible à une femme noire et seule, ni même à un homme noir d'ailleurs, de se protéger là-bas, dis-je. Mais si tu as des idées, je serais heureuse de les entendre. Kevin a gardé un moment le silence, puis il a tendu la main pour attraper le sac de toile en jute dont il a retiré un canif. Voilà qui pourrait accroître tes chances si tu oses t'en servir. Oui, j'ai vu. Tu sauras t'en servir? Tu me demandes si je saurais ou si je voudrais? Les deux. Bah, avant, hier soir, je n'aurais pas su te répondre. Aujourd'hui, je dis oui. Kevin s'est levé, il a quitté un instant la chambre, puis il est revenu avec deux règles en bois. Montre-moi, m'a-t-il dit. J'ai dénoué la corde du sac et je me suis levé pour boiter dans sa direction. Des muscles endoloris se sont réveillés. J'ai pris l'une des deux règles, je me suis passé la main sur le visage d'un geste ensommeillé. Puis, juste au moment où il s'apprêtait à parler, j'ai brusquement fait mine de lui ouvrir le ventre d'un coup de règle. Voilà, il avait un air dubitatif. « Tu sais, Kevin, je ne risque pas de me retrouver dans un combat à la loyale. » Il ne disait rien. « Tu comprends? Tant que l'occasion ne se présentera pas, je ne serai qu'une pauvre négresse stupide et apeurée. Si je me débrouille bien, ils ne verront même pas que j'ai un couteau. Pas avant de l'avoir dans le ventre. » Kevin a secoué la tête. « Est-ce qu'il y a autre chose que j'ignore à ton sujet ?» Je me suis remise au lit en haussant les épaules. « J'ai vu assez de violence à la télé pour qu'il m'en reste quelque chose. Ravi de l'apprendre. Ça n'a pas beaucoup d'importance. » Kevin m'a rejointe et s'est assis au bord du lit. « Pourquoi ?»« Bah parce que les gens de l'époque de Rufus en savent plus en matière de vraie violence que les scénaristes d'Hollywood. Ça peut se discuter. » Je ne me fais pas d'illusions sur mes chances de survie là-bas, que ce soit avec un couteau ou avec un fusil. Kevin a pris une forte inspiration. Écoute, si tu repars là-bas, tu n'auras pas le choix. Il faut que tu survives. Tu ne vas pas les laisser te tuer, si? Oh, ils ne me tueront pas, sauf si je suis assez bête pour résister à toutes les horreurs qu'ils voudront me faire subir, comme me violer, m'arrêter comme fugitive, ou me vendre au plus offrant quand ils constateront que mon maître ne vient pas me réclamer.
À travers le récit de Dana, Octavia Butler va aussi comparer le travail d'esclave et l'exploitation dans les agences d'intérim. Même si c'est pas du tout la même chose, il y a bien une sorte de continuité.
Je travaillais pour une boîte d'intérim, le marché aux esclaves dans le jargon des habitués. En réalité, tout le contraire de l'esclavage. Ceux qui dirigeaient l'agence se fichaient éperdument qu'on soit là ou pas pour prendre le boulot. Ils avaient toujours plus de candidats que de travail. Si on voulait qu'on pense à nous au moment de la distribution, il fallait se présenter à 6h du matin, signer un registre et s'asseoir pour attendre. On restait là, assis, jusqu'à ce que le chef d'équipe nous envoie bosser ou nous renvoie chez nous. Rentrer chez soi signifiait pas de paye, encore une pomme de terre dans l'assiette, ou de désespoir, aller vendre son sang dans un de ses établissements à quelques mètres de l'agence d'intérim. Je ne l'avais fait qu'une fois. Accepter une mission impliquait d'y passer autant d'heures qu'il le fallait pour le salaire minimum, diminué de la part revenant à l'oncle Sam. On lavait le sol, on collait des enveloppes, on faisait l'inventaire, on lavait la vaisselle, on triait des chips, si, on briquait des chiottes, on étiquetait des produits. Bref, on faisait tout ce qu'on nous demandait, un boulot bien souvent abrutissant, confié, selon les employeurs, à des abrutis. Des anonymes payés pour quelques heures, quelques jours, quelques semaines. Qu'importe.
Par tous ces aspects, ce roman vient ancrer la réalité de l'esclavage dans le présent. Il montre comment il a marqué la société bien au-delà de l'époque où il existait dans toute sa brutalité. D'une manière, le roman raconte comment les individus et la société descendent directement de cette réalité et que l'esclavage continue d'exister comme un héritage ou un traumatisme historique. Une partie de ces logiques persiste des centaines d'années après. C'est aussi dans cette idée qu'elle décrit l'esclavage comme une culture qui s'intègre et rend acceptable ce qui ne l'est pourtant pas à une autre époque. Voici des extraits de la discussion entre Dana et Kevin après qu'ils aient surpris des enfants en train de jouer en imitant une vente d'esclaves.
Kevin me prit la main. Les enfants imitent les adultes. Ils ne comprennent pas. Ils n'ont pas besoin de comprendre. Tout les conditionne à accepter leur avenir, même leur jeu. Qu'ils comprennent ou pas, leur avenir les rattrapera. Sans doute. Je le foudroyais du regard. Il me renvoya un regard calme qui semblait signifier « Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse ?» Je ne répondis rien, car évidemment, qui pouvait-il ? Je me passais une main sur le front. J'ai beau savoir ce qui va arriver à l'avenir, ça ne me rassure pas pour autant. Certains de ces enfants verront l'avènement de la liberté, mais après avoir perdu leurs plus belles années en esclavage. Quand ils connaîtront la liberté, il sera trop tard. Il est peut-être déjà trop tard. Allons, Dana, ce n'est qu'un jeu d'enfant. Tu y accordes trop d'importance. Et toi, trop peu. Il ne s'agit pas d'un jeu d'enfant, mais de celui de toute une société.
Et plus loin ?
Je fermais les yeux et revis les enfants occupés à leur sinistre jeu. La facilité avec laquelle on s'est adapté me troublait tellement, dis-je. Maintenant que je vois les enfants, je comprends mieux. Comment ça? Je comprends à quel point il est facile de conditionner des gens à accepter l'esclavage. Vous êtes toujours sur Radio Dragon 104.4 et 96.8. Et Campus Grenoble 90.8 avec Vortex et Rotative.
Aujourd'hui, on vous présente Lien de sang d'Octavia Butler.
Pendant ses voyages dans le passé, Dana va rencontrer et nouer des relations avec plusieurs des esclaves forcés à travailler sur la plantation du père de Rufus. Malgré les violences et l'arbitraire qui régit leur vie, les esclaves forment une communauté humaine assez riche et complexe. À travers le regard de Dana, Octavia Butler nous apprend à les voir comme des individus à part entière, loin des stéréotypes. L'exemple le plus impressionnant est probablement la cuisinière Sarah, dans laquelle on pourrait facilement voir le stéréotype de la « mammy » qui accepte son sort et s'occupe de la cuisine et des enfants. Un personnage bien connu de plein de films qui ont aussi marqué l'imaginaire de Dana.
Elle avait choisi la sécurité, consenti à une vie d'esclave par peur. Elle était de ces femmes noires que l'on appelait « mammy » ailleurs, de ces femmes pour qui les militants des années 60 ne cacheraient pas leur mépris. La négresse du foyer, la doudou zélée, l'oncle Tom au féminin. La pauvre femme faible et apeurée, aussi ignorante de la liberté du Nord qu'elle l'était de l'au-delà, qui n'avait déjà que trop perdu et n'aurait pu supporter d'en perdre davantage. Un temps, je la regardais moi aussi de haut. Supériorité morale. Je l'avais trouvée moins courageuse que moi. C'était en quelque sorte réconfortant.
Mais en rencontrant plus Sarah, Dana comprend que sous l'acceptation apparente couve une colère intense contre le père de Rufus, qui a vendu quasi tous ses enfants. Et que certains de ses choix sont dictés par la peur qu'il vende encore la dernière fille qui lui reste. De manière plus générale, Octavia Butler valorise dans son récit les stratégies de survie des personnes mises en esclavage. Dana doit apprendre que survivre en tant qu'esclave ne passe pas par des grands actes héroïques, mais par la négociation permanente de choix impossibles, des choix entre deux choses plus pires l'une que l'autre. Par exemple, quand Rufus succède à son père et vend plusieurs personnes, Dana regrette de lui avoir sauvé la vie. Mais elle doit se rendre à l'évidence que le laisser mourir aurait eu des conséquences terribles pour encore plus de personnes.
J'aurais mieux fait de laisser Rufus crever dans la boue, dire que je l'ai sauvé pour qu'il puisse aujourd'hui faire une chose pareille. Carrie me prit par le poignet et secoua vigoureusement la tête. Quoi ? Non. Il est mauvais. Maintenant qu'il est adulte, il perpétue le système. Tant que son père dirigeait la plantation, il pouvait bien manifester une vague compassion envers nous. Mais à présent qu'il est le maître, j'imagine qu'il a voulu faire un coup d'éclat pour le prouver. De nouveau, Carrie referma ses mains autour de son cou. Puis, elle s'approcha de moi et répéta le geste autour du mien. Enfin, elle s'approcha du berceau dans lequel son dernier enfant, désormais trop grand, ne dormait plus, et là, Symboliquement, elle referma de nouveau les mains autour d'un petit cou imaginaire. Se redressant, elle me regarda. J'avais compris. « Tout le monde ?» Elle fit oui de la tête, ouvrit largement les bras dans le geste de rassembler un groupe autour d'elle. Puis, encore une fois, ses deux mains se refermèrent autour de son cou. Elle avait raison, sans aucun doute. Margaret Whalen était incapable de diriger la plantation. Sans Rufus, terre et gens seraient vendus. Et à en juger par la façon dont Tom Whalen avait eu l'habitude de faire les choses, ces gens seraient vendus sans égard pour leurs liens de famille.
Le système de l'esclavage repose aussi sur la mise en place d'une concurrence entre les esclaves qui brise les solidarités et aboutit à de l'autocontrôle et de la surveillance mutuelle. Par exemple, cette mise en concurrence va se construire avec la menace d'être remplacé et de perdre une place moins pénible pour être envoyé au champ. Ces différentes places vont aussi fabriquer différentes catégories d'esclaves et susciter de la division. Par exemple, les femmes forcées de travailler proche du maître sont considérées comme des négresses blanchies, des traîtres qui choisiraient de coucher avec le maître. C'est ainsi que Dana se fait interpeller par un autre esclave sur sa proximité avec Rufus.
Il me coula un long regard scrutateur. « Tu es sûr de vouloir rester avec ce blanc ?»« Si je partais, aucun enfant noir n'apprendrait à lire et à écrire ici. » Ce n'est pas ce que je voulais dire. Si, c'est pareil, tout est lié. Les gens disent... Une minute. J'étais furieuse soudain. Je ne veux pas savoir ce que les gens disent. Les gens permettent aussi à Flower de les conduire au champ tous les jours pour les faire travailler comme des mules. Lui permettent ? Oui, exactement. Ils le font pour garder intacte la peau sur leur dos et le sang dans leurs veines. Sache qu'ils ne sont pas les seuls obligés de faire des choses qui leur déplaisent pour rester en vie et en un seul morceau.
Malgré ce système qui cherche à les diviser, il y a quand même des manifestations de solidarité parmi les esclaves. Des petits gestes, prévenir d'un danger, s'entraider pour des tâches dures, soigner les blessures. Et quand une des esclaves informe le maître des plans d'évasion de Dana, sa trahison est punie par la communauté et elle est tabassée. Sur la plantation, la communauté noire semble tirer une force commune de la souffrance et de la colère partagée, ce qui crée à la fois un contraste avec la vie de Dana dans le présent des années 1970, où elle est seule à soigner ses blessures et où elle ne peut se confier à personne. Et ça crée aussi un contraste avec les personnages blancs qui, malgré leur pouvoir extrême, semblent tous plutôt isolés et pathétiques.
Dans Lien de sang, Dana a une relation importante avec deux personnages blancs, Kevin, son mari, et Rufus, son ancêtre, propriétaire d'esclaves. La description de ces relations permet à Octavia Butler de mettre en lumière des rapports de domination qui existent dans les sociétés esclavagistes, mais aussi dans celles qui ont aboli l'esclavage. En effet, Kevin ne capte pas bien les enjeux de Dana quand elle est envoyée dans le passé. À plein de moments, il est complètement à côté de la plaque. Cette relation permet de montrer comment les deux personnages ont des positions différentes, autant dans le passé qu'en 1976, et comment Kevin ne perçoit pas toujours les enjeux liés au racisme.
Tu sais, Kevin, la violence n'est pas seulement physique. Attends une seconde, je ne minimise pas le mal qui se pratique ici, je veux juste... Si, tu le minimises, tu ne t'en rends pas compte, mais tu le fais. Je m'assis contre le tronc d'un grand pin en tirant Kevin par la moche. Nous étions en pleine forêt à présent. Non loin de nous, les esclaves de Whalen abattaient des arbres. Nous les entendions sans les voir. J'en conclus qu'eux non plus ne pouvaient pas nous voir, ni nous entendre. Je me tournais vers Kevin. Peut-être que toi, tu es capable de vivre toute cette expérience en spectateur, lui dis-je. Je peux comprendre parce que c'est mon cas aussi la plupart du temps. Une façon de me protéger. Notre époque s'interpose entre moi et 1819 et fait tampon. Mais quand par exemple je vois ces enfants jouer, il m'arrive parfois de ne plus pouvoir rester à distance. Je suis inexorablement plongée en 1819 et je voudrais agir, mais je me sens impuissante. Pourtant, je sais qu'il faudrait que j'agisse. Mais il n'y a rien à faire. Toute intervention t'attirerait aussitôt le fouet ou la mort.
Par ailleurs, la relation entre Rufus et Dana est très complexe. Elle lui sauve la vie et développe de l'affection pour lui. Quand il est enfant, elle veut l'influencer pour qu'il soit différent des hommes de son époque. Pourtant, plus il vieillit, plus il correspond à ce qui est attendu de lui, un propriétaire d'esclaves profondément raciste et misogyne. Il n'arrête pas d'arnaquer Dana, et en même temps, il a peur de la perdre. Elle, de son côté, ne peut s'empêcher de lui pardonner.
Le dévisageant de nouveau, je compris. C'était encore l'œuvre de son amour égoïste et destructeur. Rufus m'aimait, non pas comme il aimait Alice, Dieu merci. Il n'avait pas de désir physique pour moi. Mais il me voulait près de lui. Quelqu'un à qui parler, quelqu'un qui s'intéressait à ce qu'il disait, qui s'intéressait à lui. Et c'était vrai. Chose insensée, j'avais de l'affection pour ce garçon. J'en avais forcément, puisque je ne cessais de tout lui pardonner. Envahi par la culpabilité, songeant que j'aurais dû davantage ressembler à Alice, je regardais par la fenêtre. Alice ne lui pardonnait rien, n'oubliait rien, le haïssait aussi profondément qu'elle avait aimé Isaac. Je pouvais le comprendre, mais à quoi bon haïr ainsi? Elle ne pouvait se résoudre à fuir de nouveau, pas plus qu'elle ne pouvait se résoudre à le tuer et aller au-devant de sa propre mort. Elle ne pouvait rien, si ce n'est accroître son malheur.
En même temps, Octavia Butler développe la complexité des relations entre les esclaves et les maîtres, marquée par des sentiments contradictoires. Une description qui vient mettre, là aussi, des mots sur les dynamiques de domination. Et comment peut se construire une emprise? Et aussi, quelles stratégies sont mises en place par les dominants pour protéger leurs privilèges et leur position sociale?
Rufus vient faire un petit tour et jouer les héros pour avoir fourni un tel festin. Ses esclaves l'acclamèrent et le bénirent ainsi qu'il était de rigueur. Mais, dans son dos, les plaisanteries fusèrent, grossières. Curieusement, on aurait dit qu'il l'aimait, le méprisait et le craignait tout à la fois. J'en fus troublé car j'éprouvais moi-même à son endroit ce mélange exact d'émotions. J'avais cru jusqu'alors que mes sentiments étaient compliqués par l'étrange relation qui nous unissait. Mais il est un fait que n'importe quelle forme d'esclavage engendre des relations complexes. Seul le contremaître, lors de ses brèves apparitions, suscitait des émotions simples et non contradictoires de haine et de terreur. Mais pour que le maître garde les mains propres, n'appartenait-il pas au contremaître d'inspirer haine et terreur ? En 2000, Octavia Butler déclare dans une interview avec le New York Times :
Quand j'ai commencé à écrire de la science-fiction, quand j'ai commencé à en lire, bon sang, je n'existais dans aucun de ces trucs que je lisais. Les seuls noirs qu'on y trouvait étaient des personnages marginaux ou des personnages tellement faibles d'esprit qu'ils ne pouvaient rien faire, de toute façon. Je m'y suis introduite par l'écriture, puisque je suis moi, que je suis là et que j'écris.
Et en effet, Lien de sang n'est pas le seul livre où Butler fait exister des personnages de femmes noires qui se retrouvent dans des situations où elles n'ont pas de pouvoir et subissent toute forme d'abus. Mais ces personnages sont déterminés à revendiquer le pouvoir sur leur propre vie et à exercer ce pouvoir avec virulence quand c'est nécessaire. Ce qui est vraiment passionnant dans son œuvre, c'est sa manière d'explorer les relations humaines comme des maillages complexes de pouvoir et d'affection dans des univers plutôt dystopiques, où les personnes sont obligées de négocier entre leurs besoins, leurs capacités, leurs exigences éthiques, leurs attachements, l'aliénation et les contraintes extérieures. Et ce n'est vraiment pas un hasard si elle ait choisi la science-fiction pour ça, car comme elle le fait dire à la protagoniste d'un autre de ses romans,
« Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, mais il y a d'autres soleils. »
Voilà, nous sommes à la fin du 9e épisode de Vortex et Rotative, et nous vous avons parlé du livre « Lien de sang » de Octavia Butler, récemment réédité en français par les éditions Au Diable Vauvert.
Et si on a réussi à éveiller votre curiosité pour ce livre, on ne peut que vous recommander une émission de Case Rebelle de 2012 qui parle également de ce roman. Et on va mettre le lien sur la page de podcast du site campusgrenoble.org.
La musique dans cette émission était de la violoncelliste Zoé Keating.
Nous allons faire une pause estivale, mais rendez-vous à la rentrée pour de nouvelles lectures et présentations de nos livres de science-fiction préférés. Au revoir.
Au revoir et bon été.
Vortex et Rotative. Sur Radio Dragon et Campus Grenoble.